La main verte, main libre. Épisode 4. Le sol, un garde-manger, une éponge et un écosystème. Bienvenue. Dans l'épisode précédent, nous avons passé en revue les minéraux et appris à lire les carences sur les feuilles, avec une question restée en suspens, pourquoi un sol calcaire bloque-t-il le fer? La réponse arrive aujourd'hui car nous descendons sous terre. Un sol remplit quatre fonctions. Il ancre la plante, il stocke l'eau, il stocke les nutriments et il héberge une vie microbienne. Prenons ces fonctions une par une. D'abord, la texture. Tout sol est un mélange de trois tailles de particules. L'argile, très fine, qui retient bien l'eau et les nutriments mais qui se compacte et s'asphyxie facilement. Le sable, grossier, qui draine parfaitement mais ne retient rien. Et le limon, intermédiaire entre les deux. Le sol idéal du jardinier, qu'on appelle un sol franc, mélange les trois. Il draine et il retient à la fois. Souvenez-vous de l'épisode 2. Une éponge à eau et à air en même temps. Ensuite, la matière organique. Les débris végétaux décomposés forment l'humus. L'humus est doublement précieux, il agit comme une éponge à eau et à nutriments et il nourrit la vie du sol. Le moyen le plus simple d'en apporter, c'est le compost. Troisième fonction, et voici une notion qui mérite une image, la capacité d'échange cationique. Derrière ce nom technique se cache un garde-manger. L'argile et l'humus portent des charges électriques négatives. Or, beaucoup d'ions nutritifs, le potassium, le calcium, le magnésium, l'ammonium, sont chargés positivement. Ils se collent donc à l'argile et à l'humus comme sur des aimants, puis s'en détachent au fur et à mesure des besoins de la plante. Voilà le garde-manger du sol. Conséquence très concrète. Un sol sableux, pauvre en argile et en humus, n'a presque pas de garde-manger. L'engrais qu'on y verse file avec l'eau d'arrosage. C'est le lessivage. C'est exactement ce qui se passe dans un pot au terreau épuisé. Venons-en au pH, le réglage le plus puissant et le plus méconnu du jardinage. Le pH mesure l'acidité, 7, c'est neutre. En dessous, c'est acide. Au-dessus, c'est basique, on dit aussi calcaire. Voici l'idée essentielle. Le pH ne change pas la quantité de nutriments présents dans le sol. Il change leur solubilité. Or, une plante ne boit que ce qui est dissous. Le pH est donc un robinet. Il ouvre ou ferme l'accès aux nutriments. La plupart des nutriments sont disponibles au mieux quand le pH se situe entre 6 et 7. C'est pour cela que cette plage revient dans presque toutes les fiches de culture. En sol trop calcaire, au-delà de 7,5, le fer, le manganèse et le phosphore précipitent sous des formes insolubles. Voilà la réponse à l'énigme de l'épisode 3. La chlorose ferrique, ce jaunissement des jeunes feuilles, vient presque toujours d'un pH trop élevé, pas d'un manque de fer. En sol trop acide, en dessous de 5,5, c'est l'inverse, le phosphore se bloque, et l'aluminium comme le manganèse deviennent si solubles qu'ils empoisonnent les racines. Chaque espèce a sa plage de confort, héritée de son milieu d'origine. La sauge des garrigues calcaires tolère un pH de 8. Le basilic préfère un sol autour de la neutralité. Nous retrouverons ces valeurs dans les fiches des derniers épisodes. Reste la quatrième fonction du sol, la plus vivante, son écosystème. Un sol en bonne santé grouille de bactéries et de champignons qui décomposent la matière organique et la minéralisent, c'est-à-dire la transforment en ions assimilables. Souvenez-vous, la plante ne boit que des ions. L'exemple le plus important est le cycle de l'azote. L'azote organique, celui des protéines contenues dans les débris végétaux et le compost, est d'abord transformé en ammonium. C'est l'ammonification. Puis des bactéries spécialisées transforment l'ammonium en nitrate, la forme d'azote préférée des plantes. C'est la nitrification. Et notez bien ce détail, il sera capital au prochain épisode. Ces bactéries nitrifiantes ont besoin d'oxygène pour travailler. Le sol vivant offre aussi des alliances. Certains champignons, les mycorhizes, s'associent aux racines, ils étendent leur immense réseau de filaments comme un prolongement du système racinaire et livrent eau et minéraux en échange de sucre. Tout cela débouche sur un principe de culture, nourrir le sol plutôt que la plante. Apporter du compost, c'est déléguer la nutrition à l'écosystème qui libère les ions progressivement sans risque de brûlure. Verser de l'engrais soluble, c'est court-circuiter l'écosystème, efficace, immédiat, mais sans réserve et avec un risque de surdose. Retenez bien ce principe de délégation aux microbes. C'est très exactement celui de la bioponie, notre sujet de demain. Récapitulons les trois choses à retenir. 1. Un bon sol draine et retient à la fois. L'argile et l'humus forment son garde-manger à nutriments et le compost l'entretient. 2. Le pH est un robinet. Entre 6 et 7, presque tout est disponible. Trop calcaire, le fer se bloque. C'est la chlorose. Trop acide, le phosphore se bloque et des toxicités apparaissent. 3. Ce sont les microbes du sol qui transforment la matière organique en ions assimilables, notamment l'azote, par ammonification puis nitrification, un travail qui exige de l'oxygène. Dans le prochain épisode, nous retirons le sol complètement, hydroponie et sa variante organique, la bioponie. C'était la main verte, main libre. À bientôt.